Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le jeudi 16 janvier 2025. Alors, je ne sais pas si vous sentez le vent de l'euphorie ce matin. Vous le sentez ? Non, parce que là, c'est tellement flagrant. Les chiffres qui étaient tant attendus hier ont délivré juste ce qu'il fallait d'extraordinaire pour la dernière publication de l'inflation sous Joe Biden. Le président peut s'en aller sous une pluie de pétales de rose, tellement le job a été fait. Powell devrait être sanctifié d'ici la fin du mois et Notre-Dame de Paris devrait être renommée Notre-Dame de Powell en l'honneur de l'homme qui a presque vaincu l'inflation. Alors oui, je l'admets, j'exagère un tantinet, mais quand je vois la réaction du marché hier, il faut quand même pas m'en vouloir. J'avoue que je ne sais pas trop par où commencer. Dois-je d'abord aborder le sujet du pourquoi nous avons explosé hier, ou dois-je commencer par aborder l'ampleur de l'explosion d'hier ? Je crois qu'on va commencer dans l'ordre chronologique des choses. Les publications trimestrielles qui ont commencé hier avant l'ouverture, et même avant les chiffres du CPI pour certaines, et c'était exceptionnel. Déjà là, ça commençait super fort. Depuis que j'écris cette chronique, je l'ai dit des dizaines de fois, les chiffres des banques sont les chiffres les plus difficiles du monde à interpréter, puisque même les analystes qui couvrent le secteur n'arrivent jamais à viser juste sur les earnings, tout simplement parce que les bilans des banques sont pratiquement impossibles à lire et à comprendre. C'est un peu comme si du jour au lendemain, on vous demandait de remplir votre déclaration d'impôt, mais que les questions étaient posées en japonais. Pas sûr que le résultat soit satisfaisant. Eh bien, le secteur bancaire, c'est pareil. Les analystes lancent des dés en l'air et en fonction de l'atterrissage et des chiffres qui apparaissent, ils font des prévisions et la plupart du temps, ça tombe à côté. Comme hier. On va essayer de faire très simple. Hier, il y avait les publications de JP Morgan, Citi, Wells Fargo, BlackRock, Goldman Sachs et Bank of New York, Mellon. Et ils ont tous, sans exception, fait mieux que les attentes. Et attention, attention, pas mieux que les attentes du style « je fais 2 cents de mieux sur le trimestre ». Non, non, ils ont tous fait mieux du style « on ne doit pas parler de la même chose ». Je vous jure, quand vous regardez les chiffres qui étaient attendus et ce qui était publié, on est en droit de se demander si les analystes avaient bien analysé les sociétés en question. Ou alors ils se sont gourés de 2 semaines et en fait, c'était les attentes des Magnificent Seven, des Batman. Il me faut un peu de temps pour connecter les neurones à 4h du matin. Bref. Les chiffres étaient démentiels. On attendait JP Morgan avec un bénéfice de 4,09 cents par action. Ça sort à 4,81. Les profits étaient en hausse de 50% et se montent à 14 milliards, alors que les experts attendaient 11,7 milliards. Ils se sont gourés de 2,3 milliards. Citi, c'était encore le moins pire. On attendait 1,22 par action. Ça sort à 1,34. L'erreur n'est pas énorme, mais il y a un an, à la même période, ils avaient publié une perte de plus de 1 dollar. Par action. Le retournement est spectaculaire. Wells Fargo, c'était attendu à 1,35. Ça sort à 1,43. C'est pas énorme, mais c'est presque plus que le double que si l'on compare avec le trimestre de 2023. BlackRock a gagné 11,93 par action et le marché attendait 11,24. Les assets sous gestion sont en hausse de 15% sur un an. Et si on compare avec l'an dernier, ça n'a plus rien à voir, ils ont tout pulvérisé. Chez Bank of New York Mellon, on attendait 1,58, c'est sorti à 1,72 et c'est carton sur une année. Et puis, il y a Goldman Sachs. Alors, Goldman Sachs, c'est presque un poème. La vedette des banques d'affaires, parmi les vedettes des banques d'affaires, a annoncé un profit de 14,28 milliards pour 2024. Un profit en hausse de 68% sur une année. Les experts à Wall Street avaient tous calculé sur leur boulier de dernière génération. Ils avaient même repassé leurs chiffres avec la technique des osselets pour être bien sûr. Et selon les rumeurs, il y en a même un qui avait lu dans la panse de brebis farcie. Ils ne pouvaient pas se tromper. Le bénéfice par action devait être autour des 8,25, 8,30, à la limite du 8,35 sur une bonne année. C'est sorti à 11,95 par action. À ce stade-là, c'est plus une marge d'erreur, c'est de l'automutilation de la part des analystes. C'est presque du masochisme. En résumé, les banques ont cartonné, il n'y a pas d'autre mot. Et le pire, vous savez ce qui est le pire dans tout ça ? C'est que la dérégulation du système bancaire annoncée par Trump n'a même pas encore commencé. Dans un an comme aujourd'hui, le CEO de Goldman Sachs, il va se pointer pour la conférence de presse avec des caisses de Dom Pérignon pour distribuer aux journalistes et au cocktail qui aura lieu après la conférence, il n'y aura que du caviar, le plus cher possible. Hier, JP Morgan a terminé en hausse de 2%, Citi explosait de 6,5%. Wells Fargo prenait 6,7%. Bank of New York, 8% de hausse. BlackRock grimpait de 5,2%. Et Goldman Sachs bondissait de 6% pour terminer au plus haut de tous les temps, en hausse de 110% depuis le pivot de la Fed. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'ils ont tous constaté une hausse des volumes de trading. Tout le monde veut devenir trader et gagner beaucoup d'argent et jeter des homards et des billets de 100 dollars au visage des gars de l'IRS comme Jordan Belfort. Bref, les banques, c'est de la balle. Manquerait plus qu'ils fassent de l'intelligence artificielle. Chapitre suivant de la séance d'hier, les chiffres de l'inflation. Oui, vous savez, hier, il y avait les chiffres du CPI et du core CPI. Alors, pour mémoire, le core CPI, c'est la partie de l'inflation où l'on ne tient pas compte des trucs qui dérangent, comme l'énergie, la bouffe ou les loyers. Que des trucs qui sont vraiment pas indispensables. Le marché attendait beaucoup des publications d'hier, parce que ça avait le pouvoir, selon certains, d'être les chiffres de l'inflation les plus importants de l'histoire. Enfin, surtout des 12 derniers mois. Quoi qu'il en soit, si l'on doit en tirer le bilan sans poser de commentaires, ça donne ça. D'après le département du travail, l'indice des prix à la consommation américain était en hausse de 2,9% en décembre par rapport au même mois de 2023, ce qui était parfaitement dans les attentes. Du côté core CPI, c'est sorti à 3,2% alors que les attentes étaient de 3,3%. Ça n'était donc que du bonheur. Sans compter que si l'on se base sur le core, il était de 3,3% le mois dernier. Ce qui tend à vouloir dire que ça baisse. L'inflation est en baisse. C'est un miracle. Du coup, alors que tout le monde rendait les armes, il y a encore 48 heures, en disant que probablement la Fed ne baisserait pas du tout les taux en 2025, voici que tout le monde a tourné la veste en disant que probablement la Fed allait baisser les taux deux fois en 2025. À ce niveau-là, c'est plus du tournage de veste, hein, c'est tenter d'imiter un ventilateur. Après, à partir de là, lorsqu'on connaît notre dépendance à la baisse des taux, autant vous dire que nous sommes partis dans un délire absolument délirant. Sur les 500 titres du S&P 500, 95% terminaient dans le vert. Le S&P terminait en hausse de 1,83%. Le Nasdaq prenait 2,45%. Le DAX terminait au plus haut de tous les temps, en hausse de 1,5%. Le CAC grimpait de 0,69%. Et même le SMI était en hausse. Les Bulls avaient retrouvé le chemin des filets et plus rien ne pouvait nous arriver. Bon, après, on peut discuter. Lorsqu'on prend le temps de lire les commentaires sur les chiffres du CPI, tout le monde il est beau, tout le monde il est content. Cependant, quand on regarde un petit peu les chiffres dans leur ensemble et qu'on gratte un peu à l'intérieur, on se rend compte que les biens qui sont quand même importants et nécessaires à la vie de tous les jours ne sont pas forcément en train de devenir super bon marché, ou même de baisser. Assurance auto, plus 11,3%, transport, plus 7,3%, réparation auto, 6,2%, gaz, 4,9%, coût d'entretien des propriétaires, 4,8%, loyer, 4,3%, alimentation, plus 3,6%, services médicaux, plus 3,5%, et puis surtout, je ne sais pas vous, mais moi, la dernière fois que j'ai fait les courses pour 3 jours, j'ai demandé à la caissière pourquoi je devais payer des courses pour tous les clients du magasin. Pour faire simple, les chiffres du CPI, du PPI et du PCE rassurent les investisseurs parce que la Fed pourrait éventuellement peut-être baisser les taux encore un peu en 2025. D'ailleurs, le patron de la Fed de Chicago a encore déclaré hier qu'il s'attendait à voir l'inflation baisser encore en 2025. Bon, après, il a ajouté qu'il fallait voir la baisse sur le long terme et qu'il y avait encore des incertitudes à gérer. Et puis après, il a encore ajouté que les incertitudes étaient d'ordre fiscal, politique, géopolitique et économique. Il a été sympa parce qu'il n'a pas ajouté qu'il y avait aussi le réchauffement climatique. En gros, les mecs, ils en savent rien, mais rien du tout, pas plus que nous. Tout le monde voit la vue et le meilleur exemple, c'est le fait qu'il y a encore 48 heures, on n'osait même plus parler de baisse des taux et que ce matin, c'est le sujet du jour. Autrement dit, il suffirait d'un chiffre, d'un autre chiffre, pour que l'on tourne la veste à la vitesse d'un ventilateur au galop. En conclusion, on pourrait dire, bref, hier on est monté et on est bien monté. On ne va donc pas se gâcher la fête, mais si l'on observe simplement deux graphiques, celui du S&P 500 et celui du Nasdaq, on pourra rapidement constater que nous sommes toujours dans une tendance descendante amorcée le 6 décembre et que le S&P 500 s'est arrêté de monter dès qu'il est entré en contact avec la moyenne mobile des 50 jours. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça veut aussi dire que c'est pas tout à fait gagné. Par contre, si les chiffres du trimestre des 3 prochaines semaines sont à l'image de ceux d'hier, il est clair que les stratégistes qui pensaient que le S&P 500 irait à 7000 à la fin de l'année vont devoir refaire leurs calculs et si possible, pas avec les mêmes méthodes que pour les chiffres trimestriels des banques. Ce matin, les indices asiatiques ont ouvert fortement en hausse dans le sillage du monde merveilleux de Wall Street qui est en train de péter la nuque à l'inflation, mais depuis l'ouverture, tout est en train de se dégonfler, comme si on n'y croyait pas vraiment. Le Japon est à peine en hausse, Hong Kong avance de 0,5%, mais Shanghai vient de tourner dans le rouge. Côté pétrole, c'est du délire, et ça va sûrement aider l'inflation sur le long terme. Hier soir, les experts de l'EIA ont révisé à la hausse la consommation du dernier trimestre de 2024, et comme l'économie se porte comme un charme, il n'y a plus que Trump qui peut faire quelque chose à partir de lundi. J'oserais-il qu'en attendant, le WTI est monté jusqu'à 80$, et même s'il se redégonfle depuis hier soir, les cassures sont faites et il va falloir forer un maximum si l'on veut faire baisser le baril. Alors où je vous parle, le WTI est à 78,90, l'or est à 2724, lui aussi combat l'inflation, et le Bitcoin est à 99 400. Mais dans la nuit, on est repassé au-dessus des 100 000$, à 100 700 pour être précis, et pendant ce temps-là, MicroStrategy est à 360$. Dans le reste des choses qu'il faut savoir, je vais revenir encore une fois vous parler du quantum computing. Vous vous souvenez peut-être, récemment, Jensen Huang et Mark Zuckerberg, respectivement patrons de Nvidia et de Meta, avaient plus ou moins laissé entendre que le quantum computing, c'était de la daube. Bah, figurez-vous qu'hier, Microsoft a déclaré que 2025 serait l'année où ses clients professionnels deviendraient prêts pour le quantum, en préparant leurs organisations à l'éventuel saut technologique. Nous sommes sur le point de voir les ordinateurs quantiques résoudre des problèmes significatifs et créer une nouvelle valeur commerciale, dit Microsoft. Il suffisait de le dire. Les déclarations du géant de la tech ont donc assez logiquement contribué à faire exploser les actions du secteur quantique. D-Wave Quantum a pris 22%, Quantum Computing explosait de 55%, Rigetti était aussi en hausse de 22%. Ces derniers temps, on peut dire que le secteur, il s'en va et il revient. Je ne sais pas si ça se chante ou si ça se danse et si ça va devenir une chanson populaire, mais en tout cas, c'est spectaculaire. Autrement, on retiendra encore que Nate Anderson, qui est le patron et fondateur d'Hindenburg Research, le spécialiste des shorts qui avait mis SMCI dans les sables mouvants, entre autres, eh bien Nate Anderson ferme boutique, il en a marre et il veut passer plus de temps avec sa famille. Il va nous manquer, c'était drôle quand il publiait des trucs et c'était un peu disruptif par rapport à la salade publiée par les grandes banques. Il faut encore retenir que Tesla lance une offre de rabais sur les Cybertrucks. Je suis acheteur si jamais, s'il faut un rabais de 100%. Et il y a aussi l'économie allemande, qui ralentit par rapport à l'an dernier et à l'année précédente. C'est d'ailleurs pour ça que le DAX est au plus haut de tous les temps. Les exportations d'iPhone en Chine sont en baisse de 25% sur le dernier trimestre, selon certains chiffres non officiels. Il y a aussi TikTok qui prévoit de fermer ses activités américaines. C'est 170 millions d'Américains qui n'auront plus accès à leur compte dès dimanche soir, date à laquelle une interdiction fédérale devrait entrer en vigueur, à moins d'un sursis de dernière minute. S'il n'y a pas de miracle ou de scénario hollywoodien, ce qui va être compliqué, parce que là, tout de suite, Hollywood s'est un peu occupé autre chose, il ne restera donc plus que Trump qui pourra peut-être faire quelque chose. Sinon, il y a 170 millions d'Américains qui vont avoir une chier de temps libre dès lundi matin. Ils vont pouvoir lire, faire du sport, sortir dans la rue et parler à des vrais gens. On continue avec les chiffres du jour, et d'ailleurs on en remet une couche avec l'inflation, puisque ce matin il y aura les chiffres du CPI en Allemagne, puis le trade balance européen, ainsi que les minutes du dernier FOMC, du dernier meeting de la BCE. Et puis aux USA, il y aura les prix à l'importation et à l'exportation, les jobless claims, comme tous les jeudis, ainsi que les ventes de détail et le Philly Fed. Que des bonnes nouvelles à venir et que des journées ensoleillées devant nous. Et du côté du trimestre, on va parler tech aujourd'hui, puisque Taiwan Semi va publier ses chiffres. Ah, bah non, en fait, c'est déjà fait. TSMC a annoncé un bénéfice net record en hausse de 57%, ce qui est parfaitement dans les attentes. Ben oui, c'est pas une banque. Tout ça grâce à la hausse de la demande des semi-conducteurs utilisés pour, je vous le donne en mille, l'intelligence artificielle. Un grand classique. Pour le moment, le titre est en baisse de 2% sur son marché local. Mais par contre, il y aura aussi les chiffres de United Health, Bank of America et Morgan Stanley. On n'a donc pas fini de rire. Pour le moment, les futurs sont en baisse de 0,07%, et il me reste à vous souhaiter une très belle journée et une encore meilleure journée si vous travaillez dans une banque, parce que cette année, ça va être facile. Enfin, normalement. Nous, on se revoit demain pour boucler la semaine et se préparer pour l'investiture. À demain et très belle journée.